bonjour à chacun.
Bonjour.
De Mérin, de plus loin, ou bien chez vous devant un écran. Bienvenue, quel que soit votre parcours, votre situation de vie, que vous soyez dans la peine ou dans le bonheur. Si vous avez des soucis, et je suis sûr que ça arrive à beaucoup d'entre nous, je ne vous dis pas de les laisser derrière la porte, mais de venir avec et de les déposer devant Dieu dans la prière. C'est Dieu qui nous accueille ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes rassemblés, avec cette promesse que là où nous sommes rassemblés, sa présence est là. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Que ta présence se fasse sentir ce matin pour chacun d'entre nous. Ouvre nos cœurs à ta parole. Et nous voulons aussi te prier pour De Philippe, pour notre pasteur qui se prépare pour un service en Thaïlande pour 10 jours, et pour Philippe Fonjala qui nous a rejoint ce matin. Ben oui, aujourd'hui, ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Fonjala, qui est directeur de Portes Ouvertes. C'est une association qui a pour but de soutenir les chrétiens persécutés dans le monde. Depuis quelques dimanches, nous avons médité sur l'enseignement de Jésus rapporté dans l'évangile de Matthieu et qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et j'aimerais relire juste quelques versets de la première partie qu'on appelle les béatitudes. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Suivre Jésus, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Pour nous, c'est peut-être parfois la chaleur du lit qui nous retient d'arriver au culte ou d'y arriver à l'heure. Pour d'autres dans le monde, c'est la peur de voir débarquer la police en plein milieu du culte et d'arrêter le pasteur ou d'autres responsables. Oui, il y a beaucoup de chrétiens persécutés dans le monde, mais en fait, pas seulement des chrétiens. Par exemple, en Inde, les musulmans sont aussi persécutés que les chrétiens par un régime qui se replie sur son identité hindouiste. Et puis Jésus parle de ceux qui combattent pour la justice. Et je pense que quelque part, c'est plus large qu'une question religieuse. C'est voilà, tout le combat de ceux qui s'engagent pour la justice dans le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à rechercher la persécution pour autant. Puisqu'au contraire, même dans ce même serment sur la montagne, Jésus dit « Heureux ceux qui sont des artisans de paix ». Nous sommes appelés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour construire une société de paix, pour construire une société de liberté, mais pour autant que ça dépende de nous. et nous sommes aussi appelés à la solidarité avec tous ceux qui ailleurs dans le monde sont persécutés. Et c'est vrai que je ne peux pas évoquer cette question sans quand même dire deux mots du Laos, dont je vous parle de temps en temps. C'est un pays où il y a eu, il y a une trentaine d'années, une persécution assez généralisée avec un espèce de projet d'éradication du christianisme par des autorités communistes. Mais aujourd'hui, la situation est beaucoup plus apaisée. Pourtant, il reste régulièrement des actes de persécution dans des régions plus périphériques, dans des zones où, habitées principalement par des ethnies minoritaires, des gens qui sont de religion, de tradition animiste. Et les villageois, souvent, prennent peur quand des gens se convertissent à l'évangile et qu'ils ne participent plus aux cérémonies destinées à apaiser les esprits. Et alors, très souvent, des chrétiens sont chassés du village. Il y a des fois où on brûle des maisons, on brûle des récoltes. Il y a même eu parfois des assassinats suspects. Et pas beaucoup de protection des autorités dans ces cas-là. Donc ces choses continuent à se produire. Mais on nous brosse, Philippe Fonjala nous brossera un tableau un petit peu de ce qui se passe dans le monde tout à l'heure. Voilà, maintenant je vous invite à un temps de louange par le chant avec l'équipe musicale que nous remercions, conduite par David.
Bien, j'espère que ces paroles d'introduction un peu lourdes hein, quand même ne vont pas vous empêcher de louer le Seigneur, parce que si on est là et qu'on a eu et qu'on a cette liberté, eh bien profitons-en pour ensemble célébrer le Seigneur. Gloire à ton nom.
Je songe à l'infâme bois où Jésus m'a pris pour moi. Je vois tes mains, ses pieds baisés, mon sauveur au bois attaché. Son collier de l'homme trempé dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
Merci pour ta compassion envers nous. Merci pour ton amour plus que tout. Merci parce que chacun de nous est précieux à tes yeux. Et Seigneur, ce matin, si nous nous sentons démotivés, déprimés, anxieux, emprunts à des difficultés, fatigués, débordés, ce matin, si vous avez eu des soucis cette semaine, si vous avez eu des professeurs injustes, si vous avez eu des chefs injustes, si vous avez eu des conflits avec vos parents, avec vos enfants, avec vos collègues, peut-être que vous avez eu même des tensions dans votre couple. Eh bien, j'aimerais vous encourager à vous approcher de celui qui est venu vers nous dans nos tempêtes. Il a traversé nos océans en pagaille. Jésus, ce n'est pas des mots en l'air. Il est venu, il veut nous rejoindre, il veut vous rejoindre. Il veut marcher sur l'eau pour nous rejoindre dans notre barque et pour calmer la tempête. Et c'est vrai que ce matin, on a déjà eu avec l'introduction, on entend des situations où on se dit... finalement, nous, on n'a pas de raison de se plaindre. Mais je crois que Jésus connaît toute situation et on n'a pas à se culpabiliser non plus d'entendre qu'il y a des persécutions. C'est important d'entendre ce qu'on va entendre ce matin, de pouvoir prier les uns pour les autres, pouvoir essayer de comprendre pourquoi il y a ces persécutions dans le monde. Mais n'oublions pas, et ce chant qu'on vient de chanter, « Relevez le faible », il est là pour nous redire que Jésus est venu nous chercher et qu'il est bon de lui obéir. Je vous invite à quelques prières. Seigneur, merci pour ta grande compassion. Oui, merci parce que tu veux nous rejoindre dans des choses qui nous paraissent peut-être futiles, mais qui nous pourrissent l'existence. Viens Seigneur, par ton esprit, transformer nos cœurs. Viens nous relever. Merci pour ta main qui s'abaisse jusqu'à nous. Amen.
C'est vrai, nous n'oublions pas tous tes bienfaits. Nous compatissons tous ceux qui souffrent, mais nous voulons nous réjouir de tout ce que tu nous as donné, ce que tu nous donnes encore aujourd'hui, et que nos cœurs continuent à t'élever, même si les épreuves sont là, malgré et contre tout. Nous savons que tu es avec nous, tout là aussi pour lui. Sois loué, sois béni au milieu de nous. Amen.
Amen.
Garder les yeux fixés sur toi, que ce soit dans la joie comme dans la difficulté. Et Seigneur, que ceux qui sont persécutés, qui souffrent pour toi, puissent garder les yeux fixés sur toi, encouragés, fortifiés par toi. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.
Seigneur,
Seigneur. Nous te louons pour ta fidélité, quelles que soient les circonstances. Amen.
Amen.
Et Seigneur, merci. Merci pour ce privilège que nous avons dans ce magnifique pays qui nous garantit qu'on n'a pas besoin d'avoir peur au ventre quand on se réveille le matin. Merci encore pour ce gouvernement démocratique que nous avons en Suisse. Je veux le bénir et que nous puissions t'adorer sans entrave, sans peur. Merci encore, Seigneur. Amen.
Merci Seigneur Jésus parce que tu étais là il y a 2000 ans. Tu es là aujourd'hui et tu seras là aussi par la suite. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné et qui règne en nous parmi nous.
Amen.
Nous venons à toi recevoir le pain,
ta parole sainte. Viens, Seigneur, par la vérité, modeler nos cœurs à ta ressemblance
et que ta
lecture biblique en introduction au message que nous donnera Philippe Fonjala. Un psaume d'abord. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finit le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. C'était le psaume 37. L'apôtre Pierre écrivait « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ?» Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre, avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Et finalement, un troisième texte qui fait aussi partie de ce fameux sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que des frères, que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Seigneur, je te remets Philippe pour que tu l'inspires ce matin dans la parole qu'il va partager. Amen.
Alors bonjour à chacun. Merci de m'accueillir ce matin dans votre communauté. C'est avec grande joie que je suis là. Et sans être présomptueux, je crois que j'ose vous saluer de la part de l'Église persécutée. Parce qu'on a entendu que, ben oui, bien sûr, c'est vrai, c'est difficile. Mais l'Église, dans les régions où elle souffre, elle se réunit comme nous ce matin, dans beaucoup d'endroits. Et même quand ce n'est pas possible de se réunir, elle trouve souvent quand même des solutions. Alors ça peut être caché. Mais eux aussi, ils sont, le dimanche en particulier, là pour bénir notre Seigneur. Et c'est donc avec joie que je vous salue de leur part. Je le fais aussi parce que ça arrive souvent qu'ils nous disent cela, quand on les visite, qu'ils nous disent, s'il vous plaît, saluez nos frères en Suisse qui prient pour nous. Alors voilà, comment je voulais introduire ce matin. On m'a demandé de présenter brièvement Portes Ouvertes. Vous l'avez déjà fait, Sylvain, avant, merci beaucoup. Mais je vous passe très brièvement un petit film qui vous donnera une bonne idée rapide sur Portes Ouvertes.
Quel est le prix à payer pour suivre Jésus ? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis ? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix.
God spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. And I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes.
Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand ils souffrent, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix?
Voilà, j'aimerais rentrer de plein pied dans le message que j'aimerais vous transmettre. Et j'aimerais commencer par ce verset qui a été lu et qui est d'une grande exigence et qui peut nous paraître inatteignable quand Jésus dit « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui ». Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Est-ce que nous pourrions vraiment devenir parfaits comme Dieu l'est, dans sa majesté et dans sa gloire? À la lumière de ce que nous connaissons de Dieu dans la Bible, c'est inatteignable. Un Dieu en qui il n'y a aucune faute, qui est juste et impartial, et qui ne supporte pas le mal et le péché. Pourtant, ce message ne laisse pas planer de doute. Il ne parle même pas d'essayer d'être parfait, mais c'est bien un ordre que donne Jésus en disant « Soyez donc parfaits comme lui ». Le passage que nous avons lu dans l'évangile de Matthieu conclut des textes dont le titre dans la Bible du Semeur est « La loi de Jésus ». Jésus y reprend des commandements donnés à Israël et on augmente la portée. Je n'en reprends ici qu'un exemple. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre ». Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui dit « imbécile » passera devant le grand conseil et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Cela ne fait que renforcer le sentiment que l'appel à la perfection est d'autant plus exigeant. La probabilité est très faible que l'un d'entre nous soit un meurtrier. Par contre, qui de nous ne s'est jamais mis en colère, n'a pas traité quelqu'un ou n'a pas pensé de quelqu'un qu'il est un imbécile ou un insensé ? Si on remonte au début de ce chapitre, il y a une clé qui peut nous aider à comprendre ce que Jésus veut communiquer. Et Sylvain nous en a parlé, nous a cité des versets de ce passage, de l'enseignement des béatitudes qui précèdent ces lois de Jésus. Heureux ceux qui sont doux, qui ont faim et soif de justice, qui témoignent de bonté, qui ont le cœur pur, etc. En me documentant pour préparer cette prédication, j'ai lu un commentaire qui disait que la perfection demandée par Jésus est moins liée au caractère de notre Dieu tout-puissant et souverain qui règne au ciel, infiniment juste et droit, qu'au fait que nous devons chercher à être parfaits comme le Père céleste, comme Jésus le cite. La référence au Père m'a touché. C'est l'image du Dieu qui nous a adoptés, qui est proche de nous et qui nous aime. Il considère chacun de nous comme son enfant. La perfection, à la lumière de ce chapitre de Matthieu, pourrait donc plutôt être la perfection dans l'amour que Dieu a porté à son comble en acceptant que son Fils Jésus-Christ meure sur la croix pour nous. Le passage de 1 Pierre, que nous avons aussi lu, nous éclaire à ce sujet. Christ lui-même a souffert la mort et le péché, une fois pour toutes, lui l'innocent, il est mort pour des coupables afin de nous conduire à Dieu. Dieu, au travers du sacrifice de Jésus, a démontré son amour infini qui permet que je sois pardonné, sauvé, et qui me permet de rétablir ma relation avec Dieu. Alors que j'étais condamné, il m'appelle son enfant. Dans Matthieu 5, c'est donc bien ce à quoi Jésus nous appelle, à être parfait dans l'amour. Il proclame que ceux qui sont doux et humbles de cœur hériteront du royaume de Dieu. De même, David écrit dans le psaume 37, « Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession, ils jouiront d'une grande paix. » Cette promesse est liée à des exigences de perfection élevées que Jésus exprime ainsi. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Et vous avez appris que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Cet enseignement nous révèle le chemin qu'il nous reste à parcourir pour tendre à cette perfection dans l'amour. Nous comprenons bien que notre attitude ne reflète souvent pas ce à quoi Jésus nous appelle. Nous avons besoin de son aide pour transformer notre caractère. Jour après jour, cela doit nous amener à nous remettre en question sur notre façon de gérer les petits conflits du quotidien. Ça commence par là. En couple, dans notre activité professionnelle, dans notre église. Cela doit nous questionner sur notre façon de réagir lorsque nous sommes blessés par un comportement, lorsque nous avons un sentiment d'injustice ou lorsque nous avons de l'inimitié pour une personne. En fait, il peut s'agir de choses relativement anodines, mais qui reflètent mon cœur. Et c'est ce que Jésus indique quand il dit qu'il est temps, ses commandements, de ne pas commettre de meurtre à la colère et aux insultes quotidiennes. Quand je suis au volant, comment est-ce que je réagis lorsque quelqu'un me pique une place de parc? Quand nous sommes en conflit avec mon épouse, quelle est l'attitude que j'ai pour régler cette situation? Quand un collègue, voire un membre de mon église, m'énerve par ses attitudes, est-ce que je suis capable de garder un regard bienveillant? Quand je me sens mis de côté ou mal accueilli, quelle attitude est-ce que j'adopte? Et qu'en est-il si quelqu'un ne m'a rien fait du tout, mais que sa tête ne me revient pas? Notre cœur peut être parfois bien tordu, et nous peinons à aimer à l'image de Jésus. C'est ce qui fait que nous avons constamment besoin de son pardon et du renouvellement de nos pensées. Dans la première épître de Pierre, il est écrit « Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. » Pierre nous appelle à agir en faisant place à Jésus dans toute sa sainteté, afin qu'il nous sanctifie. C'est le travail du Saint-Esprit qui nous rend capables de témoigner de notre foi et de notre espérance avec humilité et respect. La présence sainte de Jésus dans notre cœur, au travers du Saint-Esprit, nous permet, et là je cite des bouts de l'épître de Pierre, de nous appliquer avec zèle à faire ce qui est bien, à garder une conscience pure et à éventuellement souffrir en faisant le bien, sans craindre les hommes ni se laisser troubler. Mais alors qu'en serait-il si nous étions soumis à l'injustice, à la violence, au rejet, ou que nous étions confrontés à des personnes qui nous offensent ou nous calomnient? Et peut-être l'avez-vous été. Est-ce que nous serions alors prêts à subir ces épreuves en continuant à rester attachés à l'enseignement de Jésus, par lequel il nous demande de répondre par l'amour en toutes circonstances? À juste titre, on nous apprend à nous défendre, à ne pas laisser une injustice impunie. Si moi ou mes proches sommes confrontés à des attaques, il est nécessaire de réagir. Il est nécessaire de se défendre, voire de contre-attaquer, n'est-ce pas? Lors d'un culte précédent, à propos des chrétiens persécutés du Nigeria, quelqu'un est venu à la fin du culte et m'a dit « C'est bien joli d'aider les chrétiens qui sont victimes et de leur apporter de l'aide post-traumatique. Mais ne vaudrait-il pas mieux leur apprendre à se défendre et créer des milices d'autodéfense ?» Ce n'est pas une remarque déplacée. Il ne s'agit pas pour nous ou pour les chrétiens persécutés d'être des victimes expiatoires. Nous devons les aider à défendre leurs droits et à se protéger avec sagesse des persécuteurs. Dans le psaume 37, David donne cependant une réponse interpellante. « Ne t'irrite pas contre les méchants. Ne jalouse pas ceux qui font le mal. Et plus loin, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas car en fin de compte, tu ferais le mal. » L'expression « ne t'irrite pas » revient à 3 reprises. L'appel est clair, celui de ne pas nous laisser emporter par la colère qui ne règle pas les choses. Au contraire, celle-ci laisse une porte ouverte à Satan pour remplir notre cœur d'amertume, de ressentiment, voire de haine. De son côté, Jésus va encore plus loin en appelant à aimer ses ennemis et à prier pour ceux qui persécutent. Là, il n'est même plus question d'être passif comme dans le psaume, il est question d'être actif, aimer et prier pour ses ennemis. Et Jésus sait que nous ne pouvons répondre à cet appel que par un travail de transformation qu'il désire faire en nous. Seule la certitude de l'amour de Dieu pour nous et la conviction que Dieu veille sur nous fidèlement peut permettre de répondre au mal par le bien. David préconise l'attitude à adopter pour désarmer le mal. Il dit « Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien afin de jouir de bons pâturages en sécurité. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. » Dieu peut, selon sa volonté, faire justice ici et maintenant. Et David énonce également une réalité spirituelle. Le mal que nous subissons ne pourra pas forcément être réparé dans ce monde. Mais il y a une perspective qui est éternelle. Dieu fera justice et guérira toutes les blessures lorsqu'il établira son royaume. C'est aussi le sens de 2 béatitudes transmises par Jésus. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. C'est l'espérance que nous avons. Et cela m'amène à vous partager l'histoire d'Ayuba, un jeune chrétien du Nigeria, et je vais le faire sous la forme d'une vidéo.
La nuit, on a entendu le premier coup de feu. Mon père a dit qu'on devait tous s'enfuir. Mes frères et sœurs et moi avons commencé à courir pour sauver nos vies. Le lendemain, nous sommes rentrés à la maison. Tout était silencieux. Lorsque nous nous sommes approchés de la maison, j'ai vu 3 corps sur le sol. J'ai reconnu mon père à ses vêtements. Je me suis agenouillé à ses côtés et j'ai prié. J'ai couru à l'intérieur pour voir si ma grand-mère était encore en vie. Elle était en train de pleurer. Ils lui ont demandé s'il était musulman ou chrétien. Elle m'a dit qu'ils l'ont tué lorsqu'il a répondu chrétien. Quelques semaines après l'attaque, Boko Haram a envoyé une liste à notre village, une liste de personnes qu'ils allaient tuer. Ma famille et moi avons dû fuir notre maison. La vie n'a pas été facile pour nous. Après l'attaque, j'étais rempli de colère et de haine. De colère contre Dieu, et j'ai décidé de venger la mort de mon père. Avant de venir ici, j'avais décidé de ne jamais pardonner. Je ne pensais qu'à cela. Mais maintenant, j'ai trouvé la paix, l'encouragement et l'espoir. J'ai appris à pardonner et à tout laisser aux pieds de Jésus. Et si je dois mourir comme mon père, qu'il en soit ainsi.
Si Ayuba a pu vivre cette transformation du cœur dans une situation aussi dramatique, c'est un témoignage qui doit nous interpeller. Si nous agissons selon les règles de ce monde, quels ambassadeurs de notre Seigneur sommes-nous? Comment amènerons-nous des personnes à Jésus? Demandons donc que Dieu nous donne la force et la grâce de faire face à ce défi, de tendre à la perfection de l'amour et d'être ainsi des messagers de paix autour de nous. L'appel que j'ai pour vous ce matin est le suivant. Si vous avez une situation où vous reconnaissez manquer d'amour, où vous avez blessé quelqu'un par votre attitude, vos paroles ou même vos pensées, si vous avez été blessé, meurtri par une personne à qui vous avez de la peine à pardonner, alors il est peut-être temps de le remettre à Dieu. Je vous invite à prier et ensuite, si quelques-uns veulent aussi se joindre à cette prière, ils peuvent le faire. Seigneur, nous te louons de ce que tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils pour nous sur la croix. Et nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu nous demandes à notre tour de faire à ta suite, qui est celle d'être des ouvriers de paix, des messagers de paix, et de pardonner autour de nous. Et Seigneur, nous te demandons que tu viennes toucher notre cœur lorsque nous sommes dans des situations où pardonner est difficile, où nous avons été blessés, et que tu viennes nous remplir de ton Saint-Esprit pour que nous soyons capables de répondre à cette parole, comme Ayuba l'a fait, cette parole qui invite à pardonner même ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur. Amen.
je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le chemin de toujours et de l'éternité. Amen. Amen.
Très bien. Dans la deuxième partie qui m'a été mise à disposition, j'aimerais vous présenter spécifiquement la situation en Afrique subsaharienne et plus précisément au Nigeria, où nos frères et sœurs actuellement souffrent d'une forte persécution. Le christianisme en Afrique, c'est une église en croissance. Peut-être que vous savez, plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Et donc, c'est une société et un christianisme très dynamique. Mais c'est aussi une église qui souffre de persécutions fortes dans la région et de persécutions violentes. Vous voyez ici une carte où vous voyez la persécution violente qui s'étend. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais vous voyez les pays dans lesquels les chrétiens souffrent de persécutions particulièrement violentes. Et au Nigeria, vous avez ici quelques chiffres qui vous montrent l'ampleur de la situation. Et en 2023, il y a eu plus de 4000 chrétiens tués à cause de leur foi au Nigeria, ce qui représente plus de 80% de l'ensemble des chrétiens tués à cause de leur foi dans le monde. Et cette violence a des conséquences sur les personnes individuellement, sur les survivants, sur l'Église et sur l'ensemble de la société. Mais c'est aussi l'occasion pour les chrétiens de s'attacher à Christ, de chercher la paix de Dieu dans ces circonstances. Et c'est toujours le dilemme de la persécution entre la souffrance et l'espérance dont j'ai aussi parlé, l'espérance qui est plus grande que ce par quoi ils passent. Et les chrétiens dans cette région sont aussi sel et lumière malgré le mal qu'ils subissent. Cet extrait du psaume 56 pose passablement bien le dilemme des chrétiens dans la région. D'un côté, le harcèlement, d'un côté, ils sont assaillés, ils sont persécutés, et dans l'autre côté, ils sont capables de louer Dieu pour sa parole, parce qu'ils ont confiance en lui, parce qu'ils mettent leur confiance en lui, et parce que avec Dieu, leur peur ou la paix leur est donnée. Je suis allé au Nigeria fin août 2023. Je suis allé dans la région qui est entourée d'un cercle, vous voyez, vraiment au centre du Nigeria. Et actuellement, les violences sont très fortes à cause d'extrémistes peuls qui attaquent les villages dans cette région. J'ai visité entre autres des camps de déplacés. Ici, vous voyez un camp de déplacés qui, au moment où je l'ai visité, n'était pas officiel. Et vous voyez la façon dont ils ont construit des sortes de huttes ou de tentes pour habiter là. Ce camp existe depuis plus de 5 ans, quand j'y suis allé. Et ces chrétiens ont été chassés de leur village, se sont retrouvés à devoir habiter ici parce que c'était impossible de retourner dans leur village qui ont été attaqués. Et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de jeunes, et évidemment ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants aussi. Et vous pouvez vous imaginer que des enfants, pour certains d'entre eux en tout cas, qui ont moins de 5 ans, ils ont connu que cette situation, que ces camps de déplacés, c'est ça qu'ils ont comme image de la façon de vivre. Je suis aussi allé visiter un autre camp de réfugiés. Vous voyez, ça m'a beaucoup touché. Vous voyez cette foule de chrétiens qui sont réunis dans ce lieu-là, dans l'état du plateau, qui est d'ailleurs très majoritairement chrétien, mais où des attaques régulières ont lieu de la part des extrémistes peuls. Et ils sont venus, ils se sont réunis uniquement parce qu'ils ont entendu et qu'ils ont su qu'un petit groupe de l'extérieur, de l'étranger, venait pour les rencontrer. Et ça m'a beaucoup touché. parce que moi je suis venu pour 1h30, 2h de temps, parce que j'étais là-bas pour visiter des projets, pour encourager nos équipes sur place, et de pouvoir serrer les mains de certains d'entre eux, de pouvoir prier pour eux. C'était quelque chose de très fort, mais en même temps d'assez difficile, parce que je savais qu'au bout de 2 heures de temps, je repartais. Eux, ils sont là, ils sont dans une situation où c'est difficile de savoir de quoi leur avenir sera fait, parce que justement, ils ont été chassés de leur village. On a eu l'opportunité, si je peux dire ça, d'aller visiter des villages qui ont été détruits par les extrémistes peuls. Voilà à quoi ça peut ressembler. Et il faut savoir qu'ils viennent, ils détruisent les maisons, ils détruisent les cultures, parce que les chrétiens sont traditionnellement des agriculteurs. Et puis la conséquence, c'est que c'est impossible de revenir, parce que ça veut dire les maisons sont détruites, mais aussi les cultures sont détruites, ce qui empêche tout revenu pour ces personnes qui ont dû fuir. Et puis ce qui est aussi ce qui est aussi marquant, c'est qu'en fait, ensuite, une fois que ces villages ont été attaqués, vous voyez, vous apercevez les vaches de ces peuls, qui sont par tradition des éleveurs et plutôt nomades, et qui pèsent dans cette région-là, ce qui rend la situation encore plus difficile de venir. Nous, on n'a pu visiter que parce qu'on avait la protection de l'armée. Et quand j'ai visité, en une semaine, 22 villages avaient été attaqués, avec 44 morts dans les villages concernés. Et pour toute la période du printemps-été 2023, 66 villages ont été attaqués et détruits. Ce n'est pas juste des petits phénomènes, c'est quelque chose d'une ampleur très forte dans cette région. Et j'aimerais vous passer le témoignage de Zacharia, qui est un pasteur qui exactement a vécu ça, exactement dans les villages que j'ai pu visiter.
Lorsque je suis arrivé dans mon village ce matin-là, j'ai remarqué que les gens marchaient dans la direction opposée, fuyant. La plupart d'entre eux étaient pieds nus. Leur corps était couvert de boue, car ils avaient dû ramper pour échapper à l'attaque. Plus je me rapprochais de ma maison, plus je voyais de personnes blessées et des cadavres au bord de la route. En mai 2023, la vague constante de violence djihadiste qui sévit au Nigeria a soudainement balayé une vaste zone autour de la ville de Mangu, dans l'état du Plateau. En une semaine seulement, 125 personnes ont perdu la vie, 216 personnes ont été blessées et 27 villages ont été détruits. Le pasteur Zacharia vit dans l'un de ces villages. Il était en déplacement la nuit de l'attentat. Il est rentré chez lui le lendemain matin.
Ma maison a été entièrement brûlée, y compris tout ce qui se trouvait à l'intérieur. J'ai regardé autour de la maison pour chercher ma femme et mon fils, mais je ne les ai pas trouvés. Finalement, j'ai découvert leurs cadavres dehors, près de la cuisine.
Le raid sur le village du pasteur Zacharia était l'une des nombreuses attaques perpétrées cette semaine-là dans cette région. Les militants peuls n'ont pas expliqué pourquoi ils ont attaqué les villageois, pour la plupart chrétiens.
Ils vivaient en paix parmi nous. Ils venaient même dans nos maisons pour partager un repas avec nous. Je pense que la raison de leur attaque est qu'ils veulent nous forcer à nous convertir à l'islam. Et ils espèrent qu'en nous chassant, ils auraient plus d'espace pour faire paître leurs vaches. Lorsque cela s'est produit, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait abandonné. J'ai commencé à penser, s'il est le vrai Dieu, pourquoi a-t-il permis qu'il nous attaque ? Où était-il ? Où était Dieu ? Pourquoi n'a-t-il pas agi ? Nous avons invité le pasteur Zakaria et de nombreux autres survivants de ces attaques brutales dans notre centre post-traumatique au Nigeria. C'est là qu'il a trouvé un soulagement aux nombreuses questions qui le hantaient. Vraiment, si je n'étais pas venu suivre cette formation, je pense que la vie aurait été très difficile pour moi. Pendant les mois qui ont précédé la formation, je n'arrivais pas à dormir. Mes pensées revenaient sans cesse sur les attaques. Mais après avoir reçu des soins post-traumatiques, mon esprit était en paix. Une leçon importante qu'ils nous ont apprise est que Dieu laisse certaines atrocités nous arriver en son temps. Et aussi, ils nous ont appris à pardonner à ceux qui nous ont attaqués. Cet enseignement m'a vraiment encouragé. En ce moment même, dans mon esprit, je demande à Dieu de leur pardonner et de les faire entrer dans le royaume de Dieu, qu'ils ne meurent pas dans leurs péchés.
En pardonnant aux agresseurs, le pasteur Zakaria a pu se débarrasser du fardeau de la haine et de la colère qui pesait sur son propre cœur. Et cela l'aide à poursuivre sa vie avec amour pour son prochain.
Je veux dire aux personnes qui se trouvent dans des situations comme celles que nous avons vécues, ma prière, c'est que nous puissions nous en remettre à Dieu, car il est tout ce pour quoi nous vivons.
Pardon. J'ai visité ce centre qui s'appelle Shalom Center, où on accueille des personnes qui ont subi des attaques de la violence, et c'est un projet vraiment, une vision qui est extrêmement belle. Ils forment des conseillers pour pouvoir aider les personnes traumatisées, mais ils en forment suffisamment pour non seulement couvrir les besoins des personnes qui viennent dans ce centre, mais pour aussi envoyer ces personnes dans les lieux où se trouvent des chrétiens qui ont subi des traumatismes et qui ont subi la violence. Et c'est, je trouve, un projet qui fait vraiment sens. Et j'ai été très encouragé de voir les fruits que porte, comme dans la vie de Monsieur Zakaria, que porte ce ministère là-bas. Voilà ce que je voulais vous dire de la situation au Nigeria. Très tout petit peu de ce qu'on y fait avec ce centre traumatisé, mais il y a bien sûr bien d'autres projets. Si vous voulez en savoir plus sur ce que nous faisons comme association Portes Ouvertes, vous pouvez venir à la fin vers moi, je me tiendrai à une table où vous pouvez poser des questions. Si vous voulez prendre un magazine qui vous présente la situation en Afrique subsaharienne, vous pouvez le faire, si vous voulez vous abonner aussi. Et puis, une chose importante pour moi, c'est une pétition que vous pouvez signer, parce que nous nous sommes engagés dans une campagne qui s'appelle Afrique unie contre la violence. Et notre but, c'est de récolter des signatures en faveur de nos frères et sœurs dans la région pour influencer ce que font les gouvernements sur place, pour influencer ce que la communauté internationale fait ou plutôt ne fait pas, pour permettre que la situation change dans cette région, pour permettre que la violence cesse. Il y a des possibilités de le faire, mais il faut le vouloir. Et c'est malheureusement ce que le gouvernement au Nigeria n'a pas tellement la volonté de faire. Alors je vous invite à venir signer cette pétition à la fin si vous le désirez. Merci beaucoup de votre attention.
Nous allons prendre un temps pour partager la Sainte Cène, ce geste de communion avec Jésus et avec tous ses disciples. En mémorial du dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples avant d'être condamné à mort, lui le juste, comme beaucoup de prophètes qui l'ont précédé, comme d'autres justes d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ses disciples aussi se posaient la question « Où est Dieu ?» Tout leur monde s'était écroulé quand ils ont vu que leur maître avait été condamné à mort. Et pourtant, c'est là que Dieu était présent. Et c'est en communion avec toutes les églises, de quelque dénomination qu'elle soit, ou qu'elle soit dans le monde, que nous allons partager le pain et le vin. et nous allons manifester cette solidarité avec les églises à travers un chant, une seule église.
Du même Créateur, le même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux, il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'Esprit, et nous n'aurons qu'un seul rêve. Cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Nous dévons nos différences, abandonnons les médisances. Que le feu du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et nous ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors et maintenant, vivons dans l'unité. On verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'aurons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert. Quand nous étions indignes pécheurs, nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'un au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église.
Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples. il leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le règne de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Seigneur, accorde-nous ta sagesse quand nous sommes confrontés à l'injustice, au rejet. Seigneur, apprends-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. J'invite quelques personnes à nous rejoindre pour la distribution. Peut-être Philippe, peut-être les personnes de... Ce pain est la communion avec le corps du Seigneur. Cette coupe de bénédiction est la communion avec le sang de Christ. Nous allons distribuer les éléments. Il y a ici au milieu des verres colorés qui contiennent du jus de raisin, pour ceux qui préfèrent du jus de raisin. Et pour ceux qui préfèrent boire directement à la coupe, vous levez la main et on vous la portera.
cette liberté ne nous rende jamais tiède, que tu renouvelles jour après jour notre amour pour toi. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour conclure ce temps de Sainte-Seine, je vous propose que nous prions ensemble la prière que Jésus nous a apprise, parce que c'est aussi la prière qui est un peu commune à toutes les églises dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Passons maintenant à un temps d'offrande. Je pense que je continuerai les quelques annonces pendant que nous passerons l'offrande. Je rappelle que je demanderai aussi à des personnes peut-être de nous aider à passer les... Voilà. On rappelle que l'Église vit uniquement des dons volontaires, libres de chacun. Et c'est aussi symbolique de le faire par ce temps d'offrande, parce que c'est aussi un geste de solidarité. Il y a aussi une partie de ce qui est récolté qui est solidairement utilisé par notre fédération d'Église pour sa mission ici et ailleurs dans le monde. Et voilà, il y a d'autres moyens, donc chacun est libre pour le faire librement dans la joie du Seigneur. Alors, voilà les quelques annonces. Est-ce qu'il y a mon papier ? Voilà. Alors, il y a d'abord des... Il semble qu'il y a des grands-parents qui sont arrivés avec un immense sourire aujourd'hui, parce qu'il y a eu la naissance de Noah chez Élise et Nicolas Dubost. Et c'est vraiment tout frais parce que ça date de hier. Voilà. Alors, quelques annonces. Aujourd'hui, c'est donc la kermesse œcuménique, la KO, comme ils disent au Centre paroissial œcuménique de Mérin, au CEPOM. Je vous encourage à y aller parce que c'est un événement marquant pour ce centre. C'est aussi un moyen important pour les ressources financières de ce centre. C'est un moment de convivialité pour toute la population. Vous pouvez aller manger là-bas au repas qui fait partie de la fête. Vous pouvez aller rejoindre l'équipe de l'EM qui a un stand de livres. Voilà, il y a une espèce de marché aux puces. Voilà, ça vaut la peine d'y aller. Mardi prochain, le 12, c'est Rebecca Rebecca et Thierry Terra, non ? Rebecca toute seule ? Ok, ben Rebecca toute seule qui animera un atelier biblique sur le thème des enfants et des jeunes dans l'Église. Et ça fait partie des priorités hein, de notre communauté et vous encourage à participer à ce, à ce, à ce moment. Parole et silence, mercredi 11 à 18h à la chapelle, c'est pas long, c'est une méditation simple dans le sens de la lectio divina, pour ceux qui connaissent ce terme, de la parole de Dieu, de texte biblique, à la chapelle ici à côté. Et puis pour Juan, je ne sais pas si toi tu veux expliquer le covoiturage, c'est un événement, la journée inter-église, c'est à Bulle le 16 novembre. Bon, s'il vous reste de la place, est-ce que vous cherchez des places, est-ce que vous avez des places à offrir, parce qu'on recommande de faire du covoiturage ou des transports publics, hein, pour aller là-bas. Alors en tout cas, c'est Thierry, le grand organisateur, à qui vous pouvez vous adresser pour ces questions de transport et de covoiturage. Mais je crois que oui.
Non, en tout cas, une personne qui cherche, venez vers moi si vous avez de la place.
Voilà, d'accord, ok. Voilà, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre cérémonie. Bien que le Seigneur nous accorde la sagesse pour être des artisans de paix autour de nous, le courage de tenir bon pour la justice, la capacité de pardonner quand nous sommes affectés, et puis l'ouverture de cœur pour nous sentir, pour être solidaires de tous ceux qui sont persécutés dans le monde. Et que sa grâce et sa paix illuminent notre vie quotidienne tout au long de cette semaine. Voilà, bonne semaine à chacun.